Voix Nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Elias Sambar, curieux et non spécialiste.
Cinquième épisode, un homme de mots et d'images. Bonsoir Elias Sambar.
Bonsoir.
Alors après la lutte politique dont vous nous parliez hier, j'aimerais que vous nous parliez d'autres vies, puisqu'on a commencé ces émissions en disant que vous aviez mené des vies successives et des vies simultanées. J'aimerais ce soir que vous nous parliez de poésie et de photographie, ou d'images plus largement, puisque vous avez aussi œuvré pour des images animées. On va commencer par la poésie. Vous êtes écrivain et vous êtes le traducteur du plus grand poète qui soit dans le monde arabe et un très grand poète dans le monde tout court.
Oui.
Qui a été Mahmoud Darwish, oui. Palestinien, même s'il se disait troyen. Il est mort en 2008, qui était un grand ami. Alors, pourquoi le traduire, lui, et pourquoi la poésie ?
Le traduire, lui, il faut partir du fait que je ne suis pas traducteur. Et que c'est parti d'une conversation avec Mahmoud, qui était déjà un ami intime, très proche. Quand il me dit, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on me parle de mes poèmes, il parlait en France, il disait, puisqu'il vivait à ce moment en France, j'ai l'impression que ceux qui ont lu les poèmes dont il me parle de façon très positive, n'ont pas lu mes poèmes. C'était sa façon à lui de dire, est-ce que la traduction est en train vraiment de rendre ma poétique ? On était très complices. Bon, je savais quand il voulait arriver à un point, quel est le cheminement qu'il prenait, donc je me suis mis à rire. Je lui dis oui, peut-être, je ne sais pas. Il me dit, écoute, tu ne veux pas essayer comme ça un poème pour voir un peu ce que ça donne ? J'ai dit, j'ai compris. Et c'est parti pour 26 ans de traduction. Et ça a été un cadeau magnifique que lui m'a fait. Beaucoup de gens me disent, heureusement que tu étais là, sa poésie. C'est pas vrai. Il m'a fait un cadeau magnifique parce que, et là je vais vous parler un peu de sa poétique à lui, outre son importance, outre le fait qu'il est mondialement sur une voie universelle, et outre la complicité formidable, l'humour, il m'a donné une occasion unique d'être pendant 26 ans dans ma propre intimité. Pourquoi je dis cela ? On dit que Mahmoud est un poète palestinien. Mahmoud n'est pas un poète palestinien, Mahmoud est un poète de Palestine, et c'est toute la différence.
Il y tenait, à cette nuance.
Absolument, pourquoi ? Parce que la poésie n'est pas une nationalité. C'est pas selon votre passeport. Personne ne dit qu'Apollinaire est un poète polonais. Personne ne dit que Constantin Cavafy est un poète égyptien. Cavafy, qui a jamais quitté l'Égypte, est aujourd'hui appelé poète grec. Donc la nationalité des poètes, c'est leur langue. Donc Mahmoud est un poète arabe de Palestine. Mais le de Palestine est fondamental. C'est le terreau. Et quand je dis qu'il m'a ramené vers moi, mon intimité, parce que c'est le même terreau. Parce qu'il y a cette intimité-là indéfinissable dans les poèmes. Mais ce n'était pas pour moi uniquement une expérience pour un peu entendre la résonance de d'où je suis. Non pas qui, mais d'où je suis. Il y a toute la beauté du poème lui-même, toute la beauté des poèmes. Et là, on est tombé sur une œuvre exceptionnelle. C'est très difficile de résumer une œuvre comme celle-ci. En plus, il a beaucoup produit, Mahmoud. Uniquement par une ou deux images. Mais quand même, il y a deux choses fondamentales qui sont très belles. Yanis Ritsos, qui était un de ses grands amis, ils ont fait d'ailleurs des récitals ensemble à Athènes, lui disait, tu es un poète lyrique épique. Mahmoud a constamment écrit de la chanson et du chant. La chanson qui était le murmure personnel, sentimental, affectueux, intime, et le chant qui était l'épopée. Et ce qui est magnifique dans l'œuvre, c'est le fait d'arriver régulièrement à croiser le chant et la chanson. Si vous prenez les grandes pièces, nous passons de l'épopée à un murmure, à des chuchotements, et ça repart. Bon. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est un poète qui chante. La musique dans sa poésie est sublime. Et qui s'est passionné en permanence. Chaque recueil a été une tentative réussie à chaque fois de passer à de nouvelles formes. Et c'est un poète qui a une modernité exceptionnelle, sauf que c'est un poète qui a une maîtrise absolue de la poétique classique arabe. Et c'est un peu comme pour j'avance souvent cette image. Tous les grands peintres abstraits, les vrais grands peintres abstraits, sont des dessinateurs époustouflants. On ne peut pas aller vers l'abstraction si on ne maîtrise pas autre chose qui n'apparaît pas de prime abord dans l'abstrait. Mahmoud a été en permanence confronté à une idée d'amour, parce qu'il était amoureux de la langue arabe, et en même temps de voir qu'est-ce qu'il pouvait lui faire faire, qu'est-ce qu'il pouvait imposer, qu'est-ce qu'il pouvait, non pas lui tordre le cou parce qu'il en était vraiment amoureux, mais qu'est-ce qu'il pouvait lui faire dire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de dire. En même temps, il résonnait à tous les courants poétiques du monde. Je pense que Mahmoud était très proche de Rilke, très proche de beaucoup de poètes, de Ritsos, je l'ai dit. Mais alors, il y a un poète qui est tout le temps là, et c'était très émouvant, qui est Lorca. Lorca est vraiment présent dans toute l'œuvre, et Mahmoud en était amoureux. Et il y a des poèmes où il cite, il y a un poème, une grande pièce épique, où il dit « Verte, verte la terre de mon poème ». Il ajoute dans le poème « Ces vers auraient pu être écrits par un autre poète ». En fait, c'est un clin d'œil, un vers de Lorca, dans lequel Lorca dit « Verde, verde, te quiero verde ». Il y a tout le temps, Lorca est tout le temps là. Et il y a l'idée du chant, hein, la musique. Et Mahmoud était une diva de scène quand il déclamait.
Vous disiez que ce n'est pas un poète palestinien, il le disait lui-même. Néanmoins, il y a une centralité de la poésie pour les Palestiniens. La poésie est très importante et tous les peuples ne sont pas aussi proches, oui, et amoureux de la poésie. Il n'était pas le seul poète, déjà, il y a d'autres
bien
poètes.
Bien sûr, heureusement.
Et la langue poétique compte énormément,
oui,
pour les Palestiniens.
Mais je vous ajoute tout de suite un élément. Dans l'exil forcé, il a été infiniment plus aisé de transporter le poème plutôt que la prose. C'est parce qu'avant 48, la prose est omniprésente. C'est après 48 que le poème occupe toute la scène, et pas simplement parce que, ça c'est presque un cliché pseudo-sociologique, les réfugiés peuvent transporter plus facilement leurs poèmes que leurs livres, etc. C'est pas cela. C'est parce que dans l'exil, il y a deux choses qui ont beaucoup aidé au développement de la poésie. Une chose pratique, le poème est fondamentalement un art de la contraction. C'est-à-dire comment vous pouvez, en contractant les durées, les formes, dire le plus grand nombre de choses. D'ailleurs, les vers, chaque vers dans un poème, c'était la grande difficulté de la traduction. Est fait d'une multitude de strates de sens. Et forcément, vous en perdez quand vous passez d'une langue à l'autre. Mais il y a autre chose. Nous n'avons pas raconté notre expulsion. Il y a des milliers de récits possibles pour raconter comment nous sommes partis vers les exils. Il y a très, très peu d'œuvres. Nous n'avons quasiment pas raconté. Nous avons fait des livres d'histoire, des livres de combat politique, des livres de droit, mais le récit romanesque, et Dieu sait s'il y avait... Vous n'imaginez pas le nombre... Bon, j'ai beaucoup parlé, à commencer par mon propre départ et ceux des miens. Nous n'avons pas fait le récit de l'expulsion. Pourquoi ? Là, nous revenons à la question des victimes. Les victimes sont honteuses de ce qui leur arrive. Il y a une honte chez les victimes. Vous regardez les gens qui sont rentrés des camps, ne parlez pas des camps, parce qu'ils étaient honteux. C'est pour ça que la victime est victime toujours deux fois. Les femmes violées sont dans le même cas. Elles subissent le viol et après elles ont honte d'en parler. Les Palestiniens, pendant des années, tant qu'ils étaient dans les camps, ne parlaient pas de ce qui leur était arrivé. Ils réclamaient le droit, ils réclamaient le retour.
Vous m'avez perdu, Elias Sambar. Vous avez perdu la poésie pour moi, là. Je ne vois pas où est la centralité de la poésie. Vous allez y revenir.
Je vais y arriver. Il était infiniment plus facile de transporter le poème dans sa contraction et qu'il ne dit pas forcément le récit honteux.
Mais vous datez l'importance de la poésie de 48 alors ? Ça n'existait pas avant, en Palestine ? La poésie, ce n'était pas important ?
Elle n'était pas aussi prédominante. C'est après 48 que nous avons commencé à recevoir, même dans les exils, une chose qui a été appelée dans le monde arabe la poésie de la résistance, qui regroupait Tawfiq Zayad, et Samih Al-Qasem, Mahmoud Darwish, ainsi de suite. Mais avant, non.
Donc la poésie, c'est aussi une forme supérieure du politique ?
Absolument.
Dans le champ de Darwish, en
absolument,
l'occurrence,
absolument.
Il y a le champ c'est politique.
Et ce que je dis est toujours réducteur, parce que je peux vous parler pendant 10 émissions de la poésie. Mais je sais que le temps est limité et qu'il ne faut pas que vous dépassiez. Mais ce que je vous dis, pour moi, c'est quelques-uns des éléments fondamentaux. Ce n'est pas tout ce que je pense. Mais je reviens à une chose, la force du poème de Darwish, c'est deux choses très simples. Mahmoud déclamait devant 80, 90 000 personnes parfois. Il ne vendait pas 90 000 recueils ce jour-là. Les gens étaient là parce que Mahmoud avait un don qui est rare. Les poètes disent très souvent mal leur poème. Mahmoud avait un don de déclamation magnifique. Et il le maîtrisait à fond. Il savait qui il était. Et la deuxième chose, c'est le seul poète aujourd'hui dans le monde arabe. Vous arrêtez n'importe quel passant dans la rue. Le seul, il n'y en a pas deux. Dans la période moderne, hein, il y en a dans la période classique. Vous lui dites Mahmoud Darwish, il vous dira deux ou trois vers qu'il connaît par cœur. Il n'y a pas un autre poète. Et c'est pour vous dire à quel point cette voix est entendue. Et il en était très conscient, très très conscient. Donc, il y a cette musique, il y a cette voix, il y a ce contenu dont je vous ai parlé. Et puis, il y a quand même, on ne peut pas l'éviter, la centralité de la Palestine. On a beau dire c'est deux Palestines, mais la Palestine est également centrale.
Alors ça, c'était pour les mots, la poésie. J'aimerais, Elias Sambar, que vous nous parliez de l'autre côté, qui est le vôtre. Peut-être un goût pour les histoires et un goût pour les images qui vous a été donné par Jean-Luc Godard dans les années 60, 70. Mais l'amour de la poésie vient aussi de votre père, puisque vous nous racontiez qu'il était notamment un passionné de Victor Hugo.
Et de Robespierre.
Oui, et de Robespierre, mais je reste sur la poésie. Dans un épisode précédent, vous nous avez raconté les après-midi chez votre marraine à Beyrouth, à regarder les photos de famille qu'elle avait sauvées, à aller au cinéma avec elle, ce photographe et cinéaste qui était votre beau-frère médecin. Donc vous avez aussi baigné dans les images tout petit.
Oui.
Vous collectionnez, Elias Sambar, les images de votre pays perdu à tel point que vous en avez fait un livre intitulé « Les Palestiniens, la photographie d'une terre et de son peuple » de 1839 à nos jours. Un livre très beau, un livre très émouvant aussi, avec des images parfois dures, parfois très tendres, comme celles que nous avons sous les yeux, puisque le livre est sous vos yeux, posé sur la table. C'est un livre qui est monté comme un film, d'ailleurs. C'est intéressant de ce point de vue-là. Mais là, sous les yeux, vous avez une image qui, en fait, me fait penser à celle que vous avez évoquée dans l'émission précédente,
dans
justement.
Dans le film avec Serge Danet.
Et dans un film également avec Serge Danet, réalisé en 93 par Simone Bitton et Catherine Poitvin, Conversation Nord-Sud, où on vous voit tout petit, vous avez 12-15 mois, c'était juste avant de partir au Liban, et vous êtes dans les bras de votre grande sœur, et tous les deux, vous êtes rayonnants de sourire, de bonheur. Et là, cette image-là, ce n'est pas une image personnelle, ce n'est pas une image familiale. Je vais vous laisser la décrire.
Je voudrais dire très vite deux mots par rapport à cet ouvrage. Il n'aurait pas été possible sans l'amitié d'un formidable éditeur qui s'appelait Jean-François Bariel, qui présidait un peu à toutes les éditions, aux éditions Azan. Jean-François m'a donné la possibilité de faire moi-même le montage de mon film. C'est marrant, hein, mon
lapsus. De votre livre.
C'est mon livre. Parce que d'habitude, vous envoyez vos images, il les confie à un metteur en page qui les met en page. Je lui dis, est-ce que tu peux, et il m'a donné un luxe inouï, est-ce que tu peux organiser les choses pour que je sois tous les jours une séance avec le jeune homme qui va faire la mise en page. Je lui dessine la veille les images, je lui dis où viennent les textes, et le lendemain, on les monte. Et donc, ce livre s'est fait page à page avec un jeune homme très doué et en même temps très ouvert, parce que jamais on m'a dit ça, ça se fait, ça se fait pas. Le luxe, ça c'était un grand luxe. Grâce à Jean-François Albaliel, il faut vraiment que je le redise. Au niveau des images, vous avez parlé un peu de ma genèse en termes d'images, et c'est vrai, c'est tout ce que vous dites. Et c'est vrai qu'avec la rencontre de Godard, quelque chose s'est ajouté à cette quête des images, qui est un peu de tenter en permanence, non pas de dire qui suis-je, d'où est-ce que je viens, quels sont mes souvenirs, mais qu'est-ce qu'une image ? Et là, il y a eu un concept formidable que Godard a souvent développé, qu'on a discuté, etc., qui était ce qu'il appelait le champ et le contre-champ. Et donc, j'ai fait ce livre avec en tête, pleine d'expériences, pleine de séances où j'étais là pendant que Jean-Luc Godard filmait, que je voyais le travail à l'œuvre, de discussions après. Et donc ce livre est un montage comme un film, effectivement comme un film. Donc ce n'est pas un livre d'images. Et je dis d'ailleurs, ce livre est un peu ma biographie imagée, même si toutes ces images ne sont pas les miennes.
Bon. On y voit des images de combat, on y voit voilà. Des images de l'expulsion.
Et je reviens à l'idée également...
On y voit des images de Haïfa, oui, de la terre palestinienne.
Effectivement. Je reviens à l'idée de la collection. Ce n'est pas une collection, malgré le nombre d'images accumulées. Car les collectionneurs fonctionnent avec une obsession des séries. Je n'ai aucune série complète de quoi que ce soit. Je n'ai que des images qui m'ont ému, qu'elles soient personnelles ou pas, qu'elles soient historiques ou actuelles. Toutes les images que j'ai sont des images qui m'ont ému, qui m'ont donné une émotion et qui m'ont permis après d'en parler comme j'en parle dans ce livre. Cette image que vous dites,
cette image de cette femme avec un bébé dans les bras.
Elle est très belle. Cette image est très très belle. Celle d'une jeune femme portant un enfant. Elle est vêtue du costume traditionnel, ce qu'on appelle le taube des femmes palestiniennes. Et vous savez, il y a une grande richesse dans la broderie palestinienne, puisque nous pouvons, à travers chaque type de vêtement féminin, savoir d'où vient la personne qui le porte. Malgré la petite surface du pays, il y a une variété incroyable de costumes féminins et masculins d'ailleurs. Donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle avait pour moi ? Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé cette femme ?
Elle regarde l'objectif, elle sourit et son bébé.
Et je la mets en vis-à-vis avec deux autres images. Une image faite chez les Indiens Pueblo, quasiment la même année, hein, au 19e siècle, aux États-Unis. Une autre faite par un photographe français qui s'appelait Bonfils, en Palestine, d'une femme vêtue également d'une robe traditionnelle avec toute la coiffe. Pourquoi est-ce que je les ai mises en rapport ? Parce que tout ce livre, c'est des rapports entre des images. Parce que j'ai dit, dans les deux premières, il y a une mort annoncée. Les deux premières sont des images de disparition. La troisième, qui est l'œuvre d'un photographe palestinien, d'ailleurs. Le personnage est certainement mort depuis, mais elle est encore vivante. C'est-à-dire que c'est une image de vie. Il y a le sourire, bien sûr, mais ce n'est pas simplement le fait qu'elle est souriante. Elle est vivante. Elle est vivante parce que celui qui l'a perçue ne la percevait pas, comme dans les photographies des Indiens, des autochtones américains, ou les photographies orientalistes des personnages en Palestine, comme des gens voués à la disparition et à l'absence. C'est ce qui me touche beaucoup. Elle n'est pas absente. Elle ne sera pas absente, bien qu'elle soit morte depuis certainement très longtemps, ce personnage que l'on voit avec cet enfant.
On tourne les pages et on tombe sur cette image de la femme dont vous venez de parler, il y a 100 bars, elle était en noir et blanc. On tombe sur cette photo en couleur qui représente Haïfa vue de loin, votre ville natale.
Cette photo
avec un palmier au premier plan.
C'est un procédé extrêmement, extrêmement intéressant, inventé par un Suisse. Je vous la fais très courte. C'est un procédé qui n'est pas une photographie en couleur, ni une photographie coloriée. Ce sont des photos qui étaient en sépia, enfin dans les couleurs du 19e siècle. Un procédé technique absolument incroyable qui permettait de les colorier et de les tirer en lithographie. En fait, c'est une lithographie de Haïfa, lithographie photographique. Donc, ils appelaient ça PZ, c'est Photoglobe Zurich, qui était le nom de cette société suisse.
Ça date de quand, cette photo ?
C'est entre 1880 et 1910, et le procédé, qui était très lourd, très compliqué, va disparaître dès que Kodak va arriver avec les petits appareils personnels et qu'arrivera la pellicule couleur. C'était beaucoup plus simple d'avoir la pellicule couleur que ce procédé. Alors, cette ville, c'est la mienne, c'est là que je suis né. Et comme vous le voyez, elle est très modeste. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui de cette ville. C'est ma ville à la fin du 19e siècle.
On la voit de loin, hein. Il y a une étendue d'eau entre
On la voit de la mer, bien sûr. Oui, ça c'est important. C'est une baie magnifique. J'y suis, quand j'y retournais, on en parlait lors de nos précédentes séances. Et c'est une ville qui est énorme maintenant. Et bon, il y a le Carmel où nous avons été toute ma famille baptisée, ainsi de suite. C'est une ville qui m'émeut beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'est une ville dans laquelle, dans cette photo, je vois à quel point cette ville était paisible. Et bien sûr, je dois être honnête, ça rejoint ce qu'on m'a raconté sur le fait que c'était une ville modeste, simple. À l'époque où cette photo est prise, Haïfa compte 5000 habitants. Probablement mon grand-père est déjà là. Et c'est une ville qui était célèbre et réputée pour ses accueils. C'est-à-dire qu'elle pouvait accueillir beaucoup plus que d'autres lieux des gens différents. C'est une ville, dès le départ, dès que les Israéliens commencent à arriver en tant qu'immigrants, c'est la ville qu'on qualifie très souvent, dès le départ, comme une ville mixte. Parce qu'il y a eu une harmonie dans... Et ça me touche beaucoup. Cette idée de cette hospitalité-là, et je dis, bon, ça fait partie un peu de mes gènes géographiques, pas physiques, celle de l'accueil.
Ilias Sambar, on s'est arrêté sur deux images, mais il y en a une foultitude d'autres. Et d'ailleurs, vous êtes à l'initiative de la collection du futur Musée national d'art moderne et contemporain de Palestine, abrité par l'Institut du monde arabe à Paris. Il se trouve que réfléchir à ce que devrait contenir un musée palestinien, c'est quelque chose qui vous occupe depuis longtemps. Vous disiez tout à l'heure que Jean-Luc Godard vous avait permis de réfléchir à qu'est-ce qu'une image. Mais que devrait contenir un musée palestinien ? Voilà une question que vous vous posez et vous y répondez à votre façon.
Ce musée, le musée national, qui était notre projet, est le fils ou l'enfant d'une généalogie. C'est un musée qui est fondé dans la lignée du musée Salvador Allende, au Chili, du musée d'art moderne de l'Afrique du Sud, qui était en hommage à Nelson Mandela, et de celui de Sarajevo, et le nôtre qui arrive. L'idée, ce n'est pas la production palestinienne. L'idée, c'est, si vous êtes solidaire d'un peuple dans une situation difficile, vous, artiste, vous pouvez faire un don. Donc, la quasi-totalité des pièces de ce musée sont des pièces de solidarité d'artistes venus des quatre coins de la Terre. Il y a maintenant une collection de plusieurs centaines de pièces, hein, pour vous donner une idée de l'ampleur. La deuxième chose à laquelle j'ai beaucoup tenu quand nous avons fait ce projet, était que c'est un musée national, c'est-à-dire un musée public. Il y a des organisations privées qui ont des musées en Palestine, ça existe. Là, c'est un musée de la solidarité, mais c'est également un musée qui, à mes yeux, dit la responsabilité et le devoir de tout État de mettre des choses belles au service de ses citoyens. Donc c'est un devoir de l'État de mettre de la beauté au service de ses citoyens. Cette entreprise, pour moi, ne peut être que publique, elle sera publique, elle sera installée dans la future capitale de l'État de la Palestine, à Jérusalem-Est. On va me dire, c'est absolument illusoire, qu'est-ce que c'est que ces histoires que tu racontes, Jérusalem-Est, tu rêves. Eh bien, les gens qui ont lancé le musée Salvador Allende, alors que Pinochet était au pouvoir, ils ont rêvé, le musée est aujourd'hui au Chili. Ceux qui ont fait le musée de l'Afrique du Sud, Mandela était encore en prison, ils ont rêvé, et le musée est aujourd'hui en Afrique du Sud. Sarajevo, ainsi. Alors, un jour, ce musée sera là. J'ajoute une chose fondamentale. Nous n'aurions pas pu avancer comme nous avançons sans l'accueil de Jacques Lang à l'Institut du monde arabe, qui a signé avec moi un accord de participation, c'est-à-dire ils sont partenaires. Ce n'est pas simplement le fait que Jacques Lang a mis à notre disposition un local pour stocker nos œuvres. L'Institut est aujourd'hui partenaire du projet palestinien.
On voit, Elias Sambar, que vous n'avez pas perdu vos rêves. Peut-être que vous bougez un petit peu moins aujourd'hui que vous ne l'avez fait tout au long de votre vie. Vous étiez en mouvement permanent, vous n'avez cessé de vous déplacer. Peut-être que vous vous posez un peu plus. C'est ce qui me fait penser à cet exergue du dictionnaire amoureux de la Palestine. C'est le souvenir d'une conversation avec Mahmoud Darwish que je vais lire. Que ferons-nous, toi et moi, lorsque nous serons vieux ? Nous serons assis sous un figuier, sous le parvis d'une maison en Palestine. Les gens répondront habituellement à cette question par une activité, une occupation. Toi, tu désignes un lieu. Je dis que ferons-nous, tu entends où serons-nous ? C'est vrai, mais je peux te dire aussi que nous nous fixerons pour règle de n'échanger que des banalités. Nous parlerons du temps qu'il fait et des nuages qui passent. On en est où de cette conversation ?
Oui, mais hélas, nous n'allons pas pouvoir jouer réellement cette scène parce que Mahmoud n'est plus là.
Vous avez eu envie, Elias Sambar, pour terminer ces entretiens, justement de choisir un poème de Mahmoud Darwish et de nous le lire.
Vous voulez que je commence par le poème en arabe ? أقول كلاما كثيرا أقول كلاما كثيرا عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر وعن فتنة الأرض عن بلد لم أجد ختمه في جواز السفر وأسأل يا سيداتي وسادتي الطيبين أرجو البشر لجميع البشر إذن أين كوخي الصغير وأين أنا Je dis tant de choses sur la différence ténue entre les femmes et les arbres, sur la magie de la terre, sur un pays dont je n'ai trouvé le tampon sur aucun passeport. Et je demande, mesdames et messieurs au cœur bon, la terre des hommes est-elle, comme vous l'affirmez, à tous les hommes ? Où est alors ma masure ? Où suis-je ? L'Assemblée m'applaudit 3 autres minutes, 3 minutes de liberté et de reconnaissance. L'Assemblée vient d'approuver notre droit au retour comme toutes les poules et tous les chevaux à un rêve de pierre. Je leur serre la main un par un, puis je salue en m'inclinant. Et je poursuis ce voyage vers un autre pays où je dirai des choses sur la différence entre mirage et pluie et demanderai « Mesdames et messieurs, au corps bon, la terre des hommes est-elle à tous les hommes ?»
Merci, Elias Sambar.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Sandrine Malon, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.